Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au téléphone. Il sera ravi de prendre vos messages, vos questions que nous proposerons à notre invité. Vous pouvez le faire par téléphone 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Surtout, n'hésitez pas à contacter Laurent, nous serons ravis de répondre à vos questions. Nous abordons donc cette deuxième partie de notre émission du Libre Journal des Amitiés Françaises et nous allons évoquer Clausewitz. Nous restons dans l'histoire. Clausewitz, dans ses écrits du début du XIXe siècle, alors que l'Europe est en paix, du moins avec la France, préconise qu'en cas de nouvelle guerre probable, selon lui, entre la Prusse et la Prusse devrait attaquer par la Belgique. C'est un conseil qui malheureusement a été suivi avec succès, par deux fois, par les plus grands chefs de guerre allemands, héritiers en effet de la culture militaire prussienne. Nous connaissons tous l'ouvrage mondialement connu de Clausewitz de la guerre, et cet ouvrage est toujours étudié dans les écoles militaires et dans les états-majors. Mais l'image qu'a laissée Clausewitz, ne correspond pourtant pas tout à fait à celle d'un chef de guerre, mais il s'agit plutôt pour l'opinion d'un penseur, d'un intellectuel très doué, bien sûr, pour la stratégie. Alors certes, Clausewitz, pour nous, pour notre époque, est doté d'une intelligence et de qualités intellectuelles remarquables, mais ce n'est là qu'un aspect de sa riche personnalité à l'image de sa vie qui se déroula sur les champs de bataille napoléoniens, de la défaite de Iéna en 1806 jusqu'à la victoire anglo-prussienne de Waterloo, dans laquelle Clausewitz joua un rôle important à la bataille de Wavre. Et les conséquences de cette bataille, effectivement, permettront notamment à Blücher de l'emporter à Waterloo aux côtés de Wellington. Alors pour comprendre en effet les écrits de Clausewitz, eh bien, il est indispensable de connaître sa vie et sa vie militaire, car on se rend compte qu'elle a nourri sa pensée et ses réflexions sur la guerre et les liens de la guerre justement avec la politique. C'est une pensée qui est prémonitoire, en avance sur son temps, dont nous devons souligner la portée universelle par justement sa modernité. Sa biographie, sa vie est passionnante, particulièrement dans son expérience de la guerre contre Napoléon et l'analyse justement qu'il fait du génie et des faiblesses, telles qu'il a pu les observer lui-même chez Napoléon. Et c'est donc à la découverte d'un penseur et d'un homme d'action exceptionnel que nous vous convions ce soir. C'est aussi un homme au caractère romantique. On va certainement évoquer justement sa passion pour sa femme, Marie von Brühl. Il a été très patient parce que la famille de Marie ne voulait pas qu'il l'épouse. Il n'était pas tout à fait du même milieu social. Eh bien, il a attendu des années pour l'épouser. Il a été fidèle à sa femme. Mais il a été aussi fidèle à la Prusse au point de se battre contre la vie de son roi, se battre avec les Russes contre la Grande Armée. Ça, il l'a payé un temps, en tout cas, dans son avancement militaire. Eh bien, nous allons évoquer donc la vie de Clausewitz grâce à une superbe, passionnante, complète biographie, Clausewitz de Bruno Colson, qu'il publie aux éditions Tempus. C'est la deuxième émission que nous réalisons ce soir. C'est la suite de la première, naturellement, que nous réalisons donc sur cette biographie. Lors de notre première émission, eh bien, nous avions, avec notre invité Bruno Colson, étudié les origines, la jeunesse, la formation militaire et les premiers pas de Clausewitz dans la carrière militaire. Et nous en arrivons là à un moment très important de la vie de Clausewitz. C'est la campagne de napoléonienne de Prusse, avec la très cuisante défaite de Iéna en 1806, et qui, bien sûr, va complètement orienter la suite de la carrière militaire de Clausewitz. Et vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Colson pour cette deuxième émission consacrée donc à Clausewitz. Bruno Colson, bonsoir.
Bonsoir, Bruno Delcourt.
Eh bien, oui, Thierry. Mais ça ira, vous savez. C'est très bien aussi. Donc, merci beaucoup d'être avec nous en direct. On est vraiment très heureux de vous recevoir sur ce sujet passionnant qui est celui de Clausewitz, dont vous avez d'ailleurs entretenu vous-même, il faut le dire, les jeunes Saint-Cyriens récemment. Vous intervenez à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et vous avez intervenu sur ce thème récemment. Donc de Clausewitz, pour dire que c'est un sujet important. Alors je rappelle que vous êtes professeur émérite à la faculté de droit de l'université de Namur. Vous êtes un spécialiste de l'histoire militaire des 18e et du 19e siècle, un spécialiste reconnu, nous allons le voir, parce que vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces thèmes, notamment sur les guerres napoléoniennes. Je citerai par exemple Leipzig, la bataille des nations, 16-19 octobre 1813, que vous avez publié chez Perrin, et qui vous a valu d'ailleurs le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon. Vous avez aussi publié, je le rappelle, parce que nous avions aussi fait deux émissions sur ce thème, Napoléon de la guerre, c'est toutes les écrits et déclarations de Napoléon que vous rassemblez, que vous classez de telle manière à les rendre compréhensibles. Et donc ça, vous l'avez publié chez Perrin, et précisons d'ailleurs que ce livre a été traduit en anglais, en espagnol, en portugais, et même en chinois. Ça, c'est incroyable, à Shanghai, en chinois. Voilà. Comme quoi, c'est une référence, si on veut comprendre en effet le génie militaire, mais aussi les quelques défauts, parce qu'il en avait, et Clausewitz les décrit très bien dans ses différents écrits, et vous le rappelez dans cette biographie que vous publiez chez Tempus. Et puis aussi, je voulais vous interroger, parce que vous êtes l'un des six éditeurs, alors c'est en anglais, éditeurs, si, je ne sais pas si on le traduit par éditeur, l'un des six éditeurs d'une Cambridge History of the Napoleonic Wars en trois volumes. Ça, c'est récent, c'est paru en 2022-2023 à l'université de Cambridge, donc c'est extrêmement prestigieux. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage, et qu'est-ce que c'est qu'un éditeur dont vous faites partie?
Je le dis en anglais parce que c'est pas tout à fait la traduction de éditeur en français.
Oui.
En fait, il s'agit, en français, on met sous la direction de. Donc, on dirige un volume.
Ah, c'est ça.
On voit les contributions des différents participants. Et puis, on met tout ça ensemble. On fait une introduction, une conclusion. Mais donc, c'est pas vraiment. Je suis pas éditeur, évidemment. C'est, en français, je vous dis, on met sous la direction de. Donc, on dirige un volume, on l'a fait à deux ici, avec Alexander Michael Berizzi, pour Cambridge.
Et c'est un ouvrage particulièrement axé sur les guerres napoléoniennes.
Oui,
c'est un ouvrage vraiment important, ces trois volumes. C'est universitaire, c'est un travail très universitaire, ou c'est accessible au grand public?
C'est universitaire, puisque c'est Cambridge University Press, mais ils ont l'habitude de faire comme ça des synthèses sur un grand sujet avec la plupart des spécialistes connus de la matière en question. Et donc, ils ont fait comme ça la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est un travail qui est quand même assez long, parce qu'il faut attendre les papiers des collaborateurs qui veulent bien écrire, parce qu'il y en a qui sont pris par autre chose. Mais en principe, on va chercher, on a une liste de personnes adaptées donc à chaque article souhaité. Et donc, on leur demande s'ils veulent bien contribuer en un nombre limité de mots, évidemment. Sur un aspect des guerres napoléoniennes.
Alors, je vous propose de reprendre cette biographie de
Oui.
Clausewitz, là où nous l'avions laissée. Peut-être serez-vous d'accord pour faire un résumé court, bref résumé
Oui.
de la vie de Clausewitz pour nous rafraîchir la mémoire, puisque
Oui.
nous en sommes à un épisode clé hein, de sa vie, bien sûr. C'est la bataille, c'est la campagne de Prusse de Napoléon, cette terrible défaite hein, pour les Prussiens à Iéna.
Mais en fait, il est né dans une famille, disons, relativement de la classe moyenne, on pourrait dire ça. Son père était fonctionnaire aux finances dans le royaume de Prusse, mais son père avait été nommé officier à la fin de la guerre de 7 ans, parce que le roi de Prusse, Frédéric II, n'avait plus assez d'officiers. Mais il n'était pas noble, hein, donc le von a été ajouté un peu par excès. En fait, la noblesse de la famille ne sera reconnue officiellement qu'en 1827, donc bien après
Ah oui.
les guerres napoléoniennes. Mais donc, il a pris l'habitude qu'il a tenue de son père, parce qu'en principe, tous les officiers étaient nobles. Mais là, comme il en manquait, bon, il y en avait quelques-uns qui ne l'étaient pas. Alors, le jeune Clausewitz a fait d'assez bonnes études, disons secondaires, comme on les faisait à l'époque, dans sa petite ville de Bourg, près de Magdebourg, en Prusse. Il a appris le français, puisque c'était la langue des gens cultivés de l'époque, et donc il maniait un peu le français, pas parfaitement, hein, mais enfin, il a quand même parfois écrit un certain nombre de choses en français. Alors, il est entré très jeune dans un régiment, comme c'était l'habitude. Donc, il avait 12 ans seulement quand il est entré dans un régiment comme cadet. Et puis là, il a suivi un régiment qui faisait la guerre contre les Français sur le Rhin en 1793. Et donc, il a vu la guerre pour la première fois à ce moment-là. Mais bon, il était très jeune, ça veut dire qu'il ne se battait pas, il observait. Mais ça l'a déjà impressionné. Et la Prusse, vous savez, a conclu la paix avec la France au traité de Bâle en 1795. Donc en fait, il ne s'est pas battu contre les Français avant 1806. La Prusse n'a pas été en guerre avec la France durant de longues années, et plus de 20 ans finalement. Et donc 1806, c'est pour lui l'entrée dans la vraie guerre à ce moment-là. Il est l'aide-de-camp d'un prince de la maison royale prussienne, le prince Auguste de Prusse. Et le prince Auguste dirige un régiment qui va donc se battre non pas à Iéna, mais à Auerstedt contre les troupes du maréchal Davout. Alors vous savez que dans cette campagne de 1806, bon, Napoléon avait une armée supérieure en nombre à celle des Prussiens, même si ceux-ci étaient renforcés des Saxons, qui étaient leurs alliés à ce moment-là. Mais il faut savoir que le royaume de Prusse, à cette époque, c'est un petit pays. Donc l'armée n'est pas si nombreuse que l'armée française, loin de là. L'Autriche, à l'époque, a une armée bien plus nombreuse, parce que l'Empire d'Autriche, d'abord, c'est un empire. Et alors, il y a des contingents qui viennent de toutes les parties de l'Empire. Donc c'est une armée, évidemment, multinationale. La Prusse, par contre, c'est une armée nationale, mais qui s'est beaucoup inspirée de l'exemple français à la fin du XVIIIe siècle, parce que la France était à l'époque la première puissance d'Europe, il faut le savoir. Alors vous savez, tous les termes militaires viennent du français, hein, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on utilise ces mots-là dans toutes les armées du monde, en division, brigade, régiment, etc. Alors, l'armée prussienne à laquelle Clausewitz appartient, en fait, elle est plus nombreuse que celle du maréchal Davout à Auerstedt. Et là, Napoléon a commis une certaine erreur d'appréciation, en ce sens que il croyait affronter le gros de l'armée prussienne, mais en fait, il n'en affronte qu'une partie à Iéna. Le gros est avec le roi à Auerstedt. Mais Davout est un excellent général et il est maréchal d'Empire, vous le savez. Il a vraiment entraîné ses divisions à résister à un ennemi supérieur en nombre, et il va réussir à battre les Prussiens, ce qui est quand même considérable comme exploit. Et donc, c'est pour ça qu'il aura l'honneur d'entrer le premier dans Berlin, quelques jours plus tard, le 27 octobre 1806.
À Hauerstedt est plus décisif en quelque sorte que Iéna, c'est ce que vous nous
Enfin,
expliquez. Ça s'est passé le
voilà.
même jour, non?
Le même jour.
C'était le même
Oui,
jour.
tout à fait.
Il y a 20
C'était le même
kilomètres
jour.
entre les deux, non? C'est
Oui, voilà, à peu près. Oui, c'est ça,
deux
entre les
champs de
deux.
bataille assez proches.
Voilà, tout à fait, oui.
Oui.
Mais donc,
Oui.
les Prussiens étaient quand même enfin, relativement capables de se battre contre Napoléon à Iéna. Hein, ils n'avaient pas si peu de troupes que cela, mais disons que ils ont été surpassés par un système de guerre qu'ils ne connaissaient pas. Les Prussiens avaient, si vous voulez, c'est ce que disent la plupart des historiens, ils avaient retenu les tactiques de Frédéric le Grand, mais ils les avaient ossifiées en quelque sorte, ils les avaient un peu rigidifiées, fossilisées, je ne sais pas comment dire ça, enfin, elles étaient un peu trop, elles passaient un peu trop pour des recettes de victoire, alors qu'en fait, ce n'était pas uniquement la forme qui comptait, c'était aussi la motivation des soldats, bien sûr. Et donc, c'était un peu trop compassé comme système. Et c'est ce qui a surpris les Prussiens, c'est au fond que les Français avaient un système beaucoup plus vivant, beaucoup plus alerte, beaucoup plus maniable aussi en termes de mouvement des unités. Ils n'avaient au fond pas beaucoup d'expérience de lutte contre les Français. Ils avaient un peu combattu les troupes de la Révolution, mais à un moment où celles-ci n'étaient pas encore suffisamment rodées pour représenter une grande menace pour les Prussiens. Mais en 1806, bon, les troupes françaises ont fait la guerre depuis des années. Et c'est ça qui fait de bonnes troupes, en fait. Hein. C'est l'habitude de faire la guerre. On ne peut pas dire autre chose. Alors évidemment, quand on fait la guerre, on améliore, on essaie toujours d'améliorer sa performance. Mais c'est ça qui a fait la force de la grande armée de Napoléon, c'est qu'elle était composée de soldats qui avaient déjà fait la guerre. Il y avait évidemment des nouveaux, des conscrits, mais ceux-ci étaient vite mis au courant par les anciens. Et donc, c'est un peu ça, au fur et à mesure, qui va manquer à Napoléon, c'est des soldats expérimentés, parce qu'en 1806, ils sont encore très expérimentés. Mais progressivement, bien sûr, les vétérans vont être de plus en plus rares.
Permettez-moi de lire quelques lignes de votre biographie, si vous le voulez bien, Bruno Colson. Le titre, c'est Clausewitz, que vous publiez aux éditions Tempus. C'est quelques lignes que vous écrivez sur, justement, la défaite d'Auerstedt et de Iéna. La campagne d'octobre 1806 fut une révélation pour Clausewitz. Il s'aperçut à quel point le maître de son esprit avait raison et combien, pour sa simple survie, le royaume de Prusse devait changer sa façon de concevoir la guerre. Même s'il ne fait pas d'allusion spécifique à la bataille d'Auerstedt sur ce point, elle a dû lui révéler la nouvelle forme de violence dont les Français étaient capables. Pour compenser son infériorité numérique, dont Clausewitz ne s'est pas rendu compte, le maréchal Davout a dû recourir à une mobilité accrue et à la rapidité du choc. À plusieurs reprises, ses bataillons ont dû prendre d'assaut des batteries d'artillerie au prix de pertes élevées, mais avec un résultat heureux pour l'ensemble de la position française. Pour Daniel Reichel, la Révolution française et son cortège d'événements sanglants depuis la prise de la Bastille ont réintroduit la force brutale et l'instinct du corps à corps que l'armée de Louis XVI avait oublié.
Oui. Oui,
Quel... Oui, pardon, je vous écoute, oui.
c'est Daniel Reichel qui dit ça, et ça, si vous voulez, ça m'a fait un peu tilt, parce que ça expliquait d'une certaine façon ce qui avait été constaté par les participants, hein, qu'ils soient français ou prussiens. On peut en penser ce qu'on veut, on peut dire ça autrement, c'est-à-dire que l'armée prussienne, elle était composée uniquement, enfin, c'était pas des conscrits, si vous voulez, mais il y avait un système qui s'appelait le système des cantons, qui faisait qu'elle était malgré tout assez nombreuse par rapport à la population. Mais ce n'était pas une armée qui avait un élan populaire dans sa façon de combattre, en ce sens que les officiers qui étaient tous nobles, sauf exception, mais très rare, ils drillaient leurs hommes de façon très complexe. Et c'est donc là que se trouve la différence. C'est que dans l'armée française, comme on n'a pas pu instruire rapidement tous les volontaires de 1792, etc., et puis les conscrits, on a développé un système de tactique beaucoup plus spontané, beaucoup plus libre en quelque sorte, avec moins de contrôle des hommes comme de l'armée prussienne, un système moins compassé. Et c'est ça qui a frappé Clausewitz. D'une certaine façon, les Prussiens avaient l'habitude de faire la guerre en respectant certaines règles d'alignement, de marche au pas, etc. Ce qui les a rendus souvent inférieurs aux Français, qui étaient plus rapides, plus agiles. Et ça jouait quelque part. Alors évidemment, les Prussiens ont progressivement, si vous voulez, accru la liberté de combat de leurs hommes. Hein. On a eu notamment l'apparition de tirailleurs. Les tirailleurs, c'était des soldats qui étaient envoyés en avant de la ligne du bataillon pour, en quelque sorte, distraire la ligne ennemie, l'affaiblir, tuer les officiers, perturber l'ordre de l'adversaire. Et ça, les Prussiens n'avaient pas. Donc, la grande différence, c'est au fond entre une armée un peu trop drillée, un peu trop compassée, qui n'a pas fait la guerre depuis longtemps, et de l'autre côté, chez les Français, des soldats habitués à faire la guerre, et donc à sauter par-dessus les buissons, etc., quand c'est nécessaire, et ça les a surpris, les Prussiens. La différence, elle est là. Alors, Reichel dit ça, Daniel Reichel, qui est suisse, et qui a fait une excellente thèse, vous savez, sur le maréchal Davout. Davout et l'art de la guerre. C'était publié, c'est dans les années 70, hein. Mais ça a été publié en Suisse et en France. Et donc, il a bien étudié le personnage, parce que Davout, vous savez, c'est souvent celui qui est considéré comme le meilleur des maréchaux de Napoléon. Et bah, je crois que c'est vrai, hein, il ne s'est pas volé. Donc, Davout a su tirer parti de l'élan révolutionnaire, si vous voulez, mais en même temps en disciplinant ses hommes. Donc il y avait une très stricte discipline auprès du troisième corps de Davout. Il est d'ailleurs connu pour ça. Hein, c'était quelqu'un d'assez strict, hein, Davout. C'était à la fois une troupe disciplinée, mais capable d'élan quand il fallait en produire. Et donc, vous aviez aussi cette grande différence entre le choc et le feu. Beaucoup d'armées, à l'époque, c'était un héritage du XVIIIe siècle, on a un peu caricaturé ça. C'est vrai que ce n'était pas aussi simple, hein, mais les armées se battaient par le feu. Et le feu, bah, il fallait aligner le plus de fusils possible, puisqu'il n'avait pas une grande précision ni une grande efficacité. Donc, il fallait tirer groupé. Tandis que le choc, évidemment, vous voyez ce que c'est, bon, on fonce à la baïonnette, mais on ne fonce pas non plus à l'aveugle contre des gens qui vous tirent dessus. Donc, il y a des moments, notamment quand les fantassins devaient recharger leurs fusils, parce que ça prenait du temps, hein, c'était des fusils à un coup, hein. Il y avait des moments où le choc pouvait s'avérer utile pour perturber la ligne adverse. Alors vous savez que c'est ça qui était à l'époque la règle pour toutes les armées. Il ne fallait pas nécessairement tuer l'ennemi, hein. Ce qu'il fallait, c'était détruire son ordre de bataille. C'était le désorganiser. C'était ça, la clé de la victoire. Donc quand on désorganise une ligne d'infanterie bien alignée, ben, c'est comme ça quoi. Que ceux qui sont désorganisés ne savent plus quoi faire, ils ont tout perdu, ils savent plus quoi tirer, ils ont peur, ils s'en vont. Donc, le vainqueur, c'est celui qui parvient à disloquer la ligne ennemie. Et ça, Davout a su le faire à Hochstedt, et il faut dire que les Français avaient pris l'habitude de le faire contre leurs adversaires. Et comme les Prussiens n'avaient plus combattu les Français depuis longtemps, ça les a beaucoup surpris.
L'armée prussienne de 1813 à 1815 a tenu compte
Voilà,
de l'échec de Iéna, oui?
tout à fait, puisque c'est ça qui va en fait faire la célébrité de la Prusse, ce sont les réformes de l'armée prussienne. Et c'est pas Clausewitz, il était beaucoup trop jeune évidemment pour être le patron de ces réformes, mais il y a participé comme un jeune officier. Le grand patron, c'était Scharnhorst.
Il était proche de
Scharnhorst.
Scharnhorst, hein? Il dépendait de
Voilà,
travailler
c'est
pour
ça.
Scharnhorst.
Il parle de Scharnhorst. Il a été en quelque sorte son tuteur, son mentor. Et Scharnhorst était plus âgé, forcément. Et il avait fait davantage que Clausewitz la guerre contre les Français durant la Révolution, enfin contre les armées de la Révolution. Et donc il avait déjà un certain nombre d'idées sur la façon dont il faudrait modifier le mode de fonctionnement de l'armée prussienne. Il avait déjà commencé à entrevoir ça avant Iéna. Hein, donc il s'était rendu compte que les Français avaient modifié la façon de faire la guerre et qu'il fallait aussi un peu s'adapter en Prusse. Mais il n'a pas eu le temps de mettre en œuvre ces réformes, donc il les mettra en œuvre après Iéna. Durant ces années où, en quelque sorte, les réformes militaires étaient plus facilement admises, étant donné l'énorme défaite que la Prusse avait subie.
Je vous propose, si vous voulez, puis on reviendra aux suites de la bataille de Iéna pour la vie de Clausewitz, hein, et on va voir qu'il est emprisonné à Paris, on va l'évoquer. Mais puisque nous parlons de ça, un mot, peut-être quelques mots sur justement les réformes de Scharnhorst et la part de Clausewitz dans ces réformes, suite à cette terrible défaite, hein, qui a mis l'existence de la Prusse en jeu.
La part de Clausewitz a été relativement modeste, si vous voulez, parce qu'il était encore jeune et n'était pas très haut en grade, mais ça va beaucoup le marquer. Et c'est évidemment au sein de ce comité des réformes où il était, en fait, si vous voulez, il était une espèce de collaborateur, d'aide, de secrétaire, quelque chose comme ça. Il n'était pas grand-chose. Mais il s'est rendu compte que c'était ça qu'il fallait faire en Prusse, que c'était la seule façon pour la Prusse de se libérer du joug napoléonien, parce que les Français ont occupé la Prusse, Napoléon était assez dur avec la Prusse, parce qu'il estimait qu'elle avait joué un peu un double jeu diplomatique. Et en fait, c'était pas faux, mais la Prusse voulait aussi essayer de maintenir la paix le plus longtemps possible. Donc vous comprenez, ça peut prêter évidemment à des jeux diplomatiques un peu dangereux. Bon, donc Napoléon a été plus dur envers la Prusse qu'envers l'Autriche, par exemple en 1805. Il faut dire que la Prusse était plus petite, moins puissante que l'Autriche, mais aussi bon, elle avait été, disons, imprudente de déclarer la guerre à la France toute seule pratiquement. Les Russes étaient beaucoup trop loin, ils étaient leurs alliés aux Prussiens, mais ils étaient encore loin, et avant qu'ils arrivent à aider les Prussiens, ben Napoléon avait battu les Prussiens. Donc, le rôle de Clausewitz dans ces années de réforme a été relativement modeste, mais il était, si vous voulez, peut-être le plus attentif de tous. Et il n'était pas seul parmi les officiers prussiens à avoir des idées, à écrire. Il y en a eu d'autres. Hein. Faut être conscient de cela. Clovis n'est pas apparu comme ça tout d'un coup avec son traité de la guerre. Il y avait réellement dans l'armée prussienne un certain nombre d'officiers qui pensaient, qui écrivaient. Ils avaient la liberté d'écrire. Ce n'était pas le cas en Autriche, hein, il faut le savoir. Il y avait une police qui surveillait tous ceux qui écrivaient des livres. Et donc, il y a en fait très peu de publications autrichiennes à cette époque-là, alors qu'en Prusse, il y en a beaucoup. Donc, Clausewitz a été marqué par ça. Et il faut dire, c'est aussi quelqu'un qui était très sensible. Je crois que on peut dire ça. Beaucoup de personnes le remarquaient. Et notamment des dames de la haute société prussienne qui avaient peut-être une sensibilité plus propice à repérer ce que Clausewitz avait de particulier et d'original dans sa pensée. Et donc, il a en fait toujours écrit, hein, depuis sa jeunesse, il n'a cessé d'écrire. Et son De la guerre, c'est l'aboutissement d'une vie, une vie qui était assez courte, puisqu'il est mort plus jeune que Napoléon, hein, il est mort à 51 ans.
Oui, il était encore en activité lorsqu'il est mort. Il
Voilà,
était général. Et... Oui.
oui, tout à fait. Mais il a eu le choléra, bon, donc voilà. Donc, Il a écrit toute sa vie et son livre le plus célèbre, qui est toujours, comme vous l'avez dit, lu aujourd'hui, De la guerre, ben c'est vraiment une réflexion sur ce qu'est la guerre en soi. Ce n'est pas uniquement les guerres qu'il a connues, il y a quelques passages évidemment, puisqu'il a vécu les guerres napoléoniennes, il y a plusieurs passages dans De la guerre même qui sont des allusions directes à des campagnes de cette époque et qui aujourd'hui sont en partie dépassées. Mais on peut justement faire la distinction dans son Vormkrieg, dans son De la guerre, entre des chapitres qui sont quasiment éternels, parce que Clausewitz aborde la nature de la guerre, qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre, comment réagissent les humains dans une guerre, quels sont les sentiments qui prédominent. Et ça, c'est toujours la même chose. Il y a toujours l'incertitude, il y a toujours le danger, la peur, etc. Et à côté de ça, il y a évidemment quelques chapitres plus proprement liés à son époque, parce que depuis, on fait la guerre autrement, bien sûr. Mais c'est ce qui est éternel chez lui, c'est vraiment son analyse des facteurs humains dans la guerre. Et ça, malgré l'IA et tout ce qu'on veut, ben, il y en aura toujours. Hein. Ou alors, c'est plus une guerre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours lu. C'est parce que il a vraiment mis le doigt sur ce qu'on pouvait ressentir à la guerre. Et en cela, il est souvent proche de Napoléon, qui lui a fait la guerre, mais n'a pas eu le temps, le loisir d'écrire et de réfléchir à ça. On dirait en quelque sorte que Napoléon a eu des intuitions, parce qu'il avait ça en lui, il connaissait très bien ce qu'il faisait. Il était un chef de guerre. Clausewitz n'a jamais été un grand chef de guerre. Il n'a jamais commandé une armée. Hein, donc, ce n'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui réfléchissait, mais il a eu la possibilité d'écrire et de développer ça de façon parfois d'ailleurs un peu longue, parce que, vous savez, c'est l'époque des grands philosophes allemands. Je ne sais pas si vous comptiez les évoquer un peu, mais il a été marqué par cette ambiance de réflexion sur la guerre, comme sur d'autres sujets de la vie humaine. Mais donc, c'est une grande question. Est-ce que Clausewitz a connu Hegel? Est-ce qu'il a connu Kant ou Fichte? Bon, on peut en parler aussi, mais on sait qu'il a fréquenté Hegel, en tout cas, il l'a côtoyé, ça, il participait aux mêmes réunions. Fichte, il lui a écrit, mais on n'a pas tellement de lettres, enfin, de correspondance entre les deux. Et Kant, il l'a connu principalement à travers un de ses élèves qui s'appelait Kiesewetter, qui était un peu un simplificateur de Kant. Mais il n'empêche que, c'est ce que j'ai pu constater, même si on ne peut pas prouver beaucoup plus que ça en ce qui concerne la connaissance des philosophes de son temps par Clausewitz, il a vécu dans un milieu où il y avait ces idées-là qui circulaient. Donc, il y avait une sorte d'ambiance philosophique, si vous voulez, dans la Prusse de cette époque. Ça, on ne peut pas le nier.
Mais Clausewitz aurait-il écrit un chef-d'œuvre de valeur universelle, en tout cas, de la guerre, s'il n'avait pas connu ces campagnes? On pense bien sûr à Iéna, à Auerstädt, mais après, il y a la campagne de Russie, quand même. Il a un rôle important. Enfin, il n'a pas un rôle tactique important dans la campagne de Russie, vous le décrivez, mais il a un rôle important dans le sens où il va contribuer à faire basculer. C'est York, hein, je crois, le chef des troupes prussiennes aux côtés de Napoléon, avec le traité de Taurogan, il va les faire basculer dans la neutralité. Et puis après, il est chef d'état-major d'un corps, un corps d'armée prussien, pendant la campagne de Belgique en 1815, qui a un rôle important quand même. La question, est-ce que. Donc vous dites à juste titre, en effet, qu'il n'a pas commandé en chef à la guerre, hein, il n'a pas eu cette occasion, en fait, comment aurait-il été, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il aurait écrit un tel chef-d'œuvre s'il n'avait pas eu cette vie militaire?
Ah non, bien sûr.
Donc
Et
ça a quand même
puis,
nourri, c'est,
ah
ça
oui,
nourrit sa réflexion.
bien sûr, ces campagnes ont nourri sa réflexion. Mais bon, il était encore jeune. Si on compare, parce que je l'ai fait un peu aussi pour cette biographie, si on compare sa carrière d'officier à celle d'autres officiers prussiens, et notamment ses frères, parce qu'il avait deux frères officiers aussi, on constate qu'il a quand même eu un avancement assez rapide
Oui.
par rapport aux autres. Mais évidemment, bon, il était jeune par rapport à d'autres qui commandaient les armées. Et, bon, il n'a pas commandé en chef, comme je vous l'ai dit. Mais donc, sa carrière n'a pas été si terne qu'on pourrait le croire. Elle a été quand même. On a reconnu ses qualités. Certains ont mis plus de temps que d'autres à le faire, comme le roi de Prusse, par exemple, Frédéric Guillaume III. Mais je suis persuadé, enfin, en écrivant sa biographie, je me suis rendu compte que ce roi Frédéric Guillaume, en fait, il avait senti que Clausewitz était quelqu'un d'intelligent et qui pourrait être très utile, et même si il n'avait pas eu toujours les mêmes idées. Hein, Clausewitz était plus progressiste, si vous voulez. Le roi de Prusse était beaucoup plus conservateur. Il ne voulait pas trop changer la société prussienne. Il se méfiait un peu des réformateurs, pour ça d'ailleurs, hein, parce qu'il voulait un peu trop bouleverser l'ordre des choses. Mais il s'est quand même rendu compte des qualités de Clausewitz et on l'a vu dans certaines nominations à la fin de sa. Après Waterloo.
Puisque nous évoquons de la guerre von Krieg, hein, de Clausewitz, il l'a écrit. Bon, ce sont des textes qu'il a écrits sur plusieurs années, bien sûr, mais c'est son épouse, hein, Marie von Brühl, qui le publiera à titre posthume, 1837, je crois. Et c'est un ouvrage qui. Cette réflexion et ses écrits, ça s'étale en quoi, 1820-1830 à peu près?
Oui, mais donc ça, il a réfléchi, si vous voulez, déjà plus tôt,
Oui.
en écrivant en quelque sorte des articles préliminaires ou des chapitres préliminaires qui préparaient donc déjà le terrain de von Krieg. Donc, ça s'est pas fait comme ça tout d'un coup. Mais alors, il y a évidemment toute une discussion sur laquelle ici, je ne vais pas trop m'aventurer parce que est-ce que ce qui a été publié par sa veuve, Marie von Brühl, représente l'état final de sa pensée ou pas, puisqu'il est mort quand même subitement du choléra et sans avoir rien publié de son vivant, sauf une petite étude hein, qui a été publiée de son vivant, mais c'est rien du tout à côté de la guerre. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'élaboration de la guerre, et parce que Marie von Brühl, son épouse, a publié un certain nombre d'avertissements avant le livre lui-même, où certains ont vu finalement que Clausewitz avertissait son lecteur potentiel de l'état d'inachèvement de son traité. Hein, vraiment, avant, on appelle ça le traité, on peut reprendre l'expression d'ailleurs. Et donc, ça, le débat n'est pas terminé. Je veux dire, il y a des spécialistes qui discutent toujours de ça. On retrouve parfois encore des notes, des papiers qui remettent un peu en question, certaines hypothèses, etc. Bon, ça, c'est toute la philologie clausewitzienne. Il y a vraiment des spécialistes de cet aspect-là. Mais donc, même déjà dans l'état où il se trouve, même s'il est inachevé, le de la guerre est toujours considéré comme le livre le plus profond sur ce qu'est une guerre.
Mais justement, Bruno Gauchon, quand vous intervenez par exemple à Saint-Cyr Quatidan sur Clausewitz, vous évoquez sa vie ou vous évoquez pour eux, pour les allés officiers, le côté extraordinaire de l'enseignement de la guerre? Qu'est-ce que vous leur dites en fait?
Mais
Parce que
s'il y
j'imagine
avait.
qu'ils ont soif de tirer de ce qui pourrait leur être utile à eux dans la
Tout à fait.
conduite de la guerre. Que leur
Justement,
dites-vous?
la journée d'étude à laquelle j'ai participé, c'était sur la friction ou les frictions à la guerre.
Oui.
Tout ce qui est différent de ce qu'on avait prévu, parce qu'il y a justement des imprévus ou des aléas, etc. Et c'est Clausewitz qui a mis ça en évidence dans De la guerre. Donc c'est lui qui a. Et je disais d'ailleurs en allemand le mot friction, que les anglo-saxons traduisent par friction, et en français, est-ce que friction est le bon mot? Bon, on peut s'interroger. Bon, il y en a qui disent frottement.
On pourrait parler
Et c'est
d'imprévu, tout simplement d'imprévu, non?
vous avez pas vu, oui, c'est ça. Ben, c'est le frottement de la machine de guerre, si vous voulez. C'est l'effrottement d'une machine. C'est un peu ça, c'est l'image. Ben, on dit aussi friction en français, mais enfin, il faut utiliser le mot dans le bon sens, évidemment. C'est pas une friction du crâne chevelu. Hein. Donc, c'est lui qui a mis le doigt sur cet aspect-là et qui a développé justement tout ce qui pouvait être qualifié de friction à la guerre. C'est-à-dire les imprévus, les retards, les manques de communication. Et c'est tout ça. Quand on fait un plan, il faut toujours avoir un plan, mais on dit toujours ça ne se déroule jamais comme prévu. Donc c'est tout ça qu'il a mis en évidence. Et c'est de ça que j'ai parlé. Donc je n'ai pas développé sa vie, mais j'ai essayé de développer ce qu'il entendait par friction et ce qu'il donnait aussi comme ce qu'il proposait comme remède à la friction, si vous voulez. Hein.
Oui.
En fait, ce qu'il propose, en deux mots, ben, c'est d'abord ce qui fait la vie militaire, c'est-à-dire l'entraînement, la pratique du combat, l'obéissance aux ordres, la connaissance des militaires entre eux, des soldats entre eux. C'est tout ça qui réduit la friction, en fait, parce que on peut au moins compter sur ce qu'on a préparé, même si il y a d'autres éléments qui arrivent. Quand on essaie de limiter la friction au maximum, ben c'est un élément, par exemple, ça. C'est un élément qui souligne. Et c'est toujours valable. Hein. C'est pour ça, évidemment, que les armées développent des pratiques d'action extrêmement rodées, où on sait ce qui va se faire, etc. On se connaît, etc. Donc tout ça compte. Ben, ça permet de surmonter parfois la friction. Alors, ce n'est pas suffisant, évidemment. Il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Le renseignement est évidemment primordial. Il faut avoir de bons renseignements. Et ça, ben Napoléon le disait aussi, hein, il n'agissait jamais sans savoir ce que l'ennemi faisait. Donc, Clausewitz insiste sur les reconnaissances, le renseignement sur ce que fait l'ennemi. C'est tout ça qui est éternel, c'est ça. Ça ne change pas.
Alors, puisque nous sommes dans ce sujet, y a-t-il d'autres points particulièrement intéressants de la guerre de Von Krieg, de Clausewitz, que vous voudriez souligner pour les éditeurs de Radio Courtoisie,
Mais
hormis la friction et les remèdes à la friction, en quelque sorte?
ce qui fait l'intérêt de Clausewitz, c'est que, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, il ne donne pas des recettes de victoire.
Oui.
Il aide les militaires à penser. Et la pensée qu'il essaye d'insuffler aux militaires, ce n'est pas une pensée enfermée dans des catégories très, très rigides, en fait. Hein, parce qu'il y a chez lui, justement, une certaine latitude en fonction des circonstances. Les guerres ne sont pas toutes les mêmes. Et ça, il insiste beaucoup. Et il a cette image du pendule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, en fait, dans sa définition de la guerre, il fait intervenir trois éléments. D'abord, il y a les passions, la haine, etc., la fierté, l'orgueil. Enfin, en général, c'est au sein des populations qu'on trouve ça, dit-il. Ensuite, il y a la libre activité de l'âme du général qui doit prendre des décisions dans l'incertitude et qui doit évidemment prendre ce qui est le plus probable comme bonne décision. Hein, il doit évaluer les différentes alternatives et prendre ce qui est le plus probable. Donc là, il y a un calcul des probabilités. Ça bouge déjà pas mal. Et puis alors, il y a la direction politique, et c'est un des aspects qu'on met souvent en évidence en évoquant Clausewitz, c'est que, évidemment, c'est l'autorité politique qui était au-dessus de tout et qui décide ce qu'il faut faire en guerre ou pas. Et alors, il y a donc trois aspects, hein, trois groupes, si vous voulez, et son image du pendule, c'est que une guerre oscille toujours entre ces trois tendances. Il y a des guerres où il y a davantage, si vous voulez, d'intervention du politique qui croit pouvoir faire ce qu'il veut, qui utilise évidemment la raison pour déterminer les objectifs, etc. D'autres, à d'autres moments ou dans d'autres guerres, hein, c'est plutôt les passions populaires qui l'emportent. Alors là, c'est quand le peuple joue un grand rôle dans la guerre, c'est parfois le cas. Ou bien aussi, c'est les généraux qui décident dans l'incertitude, d'après les probabilités, en ayant une certaine liberté d'action. Donc il y a toujours ces trois éléments-là, mais il peut y avoir des tendances plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. C'est pour ça que Clausewitz utilise cette image d'un pendule qui est attiré par trois sources d'attraction, par trois éléments un peu. Ça peut donc varier, ce n'est pas toujours la même chose. Et ça, c'est évidemment un élément intéressant parce que la souplesse d'esprit permet d'envisager plusieurs possibilités dans la réalité, bien sûr. Donc il faut pas, il ne donne pas des définitions rigides, il laisse une certaine liberté de pensée à ceux et celles qui le lisent, et aussi, évidemment, à la réalité qui se produit dans l'histoire humaine.
Mais de cette comparaison avec le pendule, quel enseignement tire-t-il? Quel conseil donne-t-il?
Eh bien, justement, il conseille à ceux qui veulent, si vous voulez, bien faire la guerre, en quelque
Oui.
sorte, de lire ce qu'il dit, mais ça va, dit-il, les aider à penser. Ça ne va pas leur donner des
C'est ça.
recettes de victoire. Ça ne va pas les accompagner sur le champ de bataille. Donc, ce qu'il préconise, c'est de réfléchir avant d'agir. Et donc, de voir toutes les implications qu'il peut y avoir, et ceci à tous les niveaux, évidemment. Donc, son livre s'adresse aussi bien à des dirigeants politiques qu'à des généraux chefs ou des officiers sur le terrain. Il y a évidemment des passages qui sont plus adaptés aux uns qu'aux autres, mais pour lui, ça forme un tout et il peut y avoir de temps en temps une inflexion plus dans un sens ou plus dans l'autre. Mais en tout cas, il faut penser à tout ça avant de se lancer dans une guerre. En quelque sorte, ça pourrait être aussi une espèce d'avertissement, si vous voulez. Il faut réfléchir avant
Oui,
d'agir et de faire n'importe quoi.
à toutes les conséquences et que pourraient porter effectivement ces différentes actions. Bruno Colson, revenons. Eh bien, c'est bien parce que vous venez de nous présenter les grandes lignes et l'intérêt de la guerre de Vom Krieg de Clausewitz. Ça nous permet de continuer, hein, à étudier avec vous cette biographie, selon celle que vous avez écrite, hein, Clausewitz, aux éditions Tempus. Je vous propose donc d'en revenir à sa vie. Nous l'avons laissé comme il était il était attaché au service du prince Auguste à la bataille donc d'Auerstadt. Il était vaincu et le prince Auguste va être interné en France et Clausewitz va l'accompagner. C'est un passage intéressant, d'ailleurs, de votre livre, de cette biographie, parce qu'on ignore cet épisode de la vie de Clausewitz. Et vous écrivez d'ailleurs à cet égard, et je crois qu'il est à Paris, dans un premier temps, puis après, ils vont être autorisés, bien sûr, ils vont rester un an, je crois, hein, internés. Et à un moment, vous écrivez, Clausewitz n'en pleut plus de ce qu'il appelle l'arrogance française. Quelle vision il a des Français? Que dit-il des Français? Parce que votre livre aussi est très intéressant sur les réflexions de Clausewitz sur la manière dont les Français font la guerre, de la manière dont Napoléon font la guerre, notamment les critiques qu'il peut émettre, hein, sur la campagne de Russie, tout en précisant que pour lui, sans doute, que les Russes ne pouvaient pas être vaincus, hein, pour notamment la profondeur du champ de bataille. Oui. Alors, que dit-il des Français durant cette année d'internement?
C'est un aspect intéressant de l'étude
Oui.
de Clausewitz, de sa vie. C'est de voir au fond comment un Allemand hein, percevait les Français, notamment. C'est de voir les points de vue de différents pays. Alors, il y a aussi, il faut ajouter ça à ce que vous avez dit, qui est vrai, évidemment, mais
C'est votre livre.
sa vision des Français va un peu évoluer aussi. C'est-à-dire que y a une époque, évidemment, où les Français, vous le savez, dominaient toute l'Europe avec la Révolution et puis Napoléon. Et donc, pour lui, en tant que Prussien vaincu, hein, Il y avait une certaine arrogance chez les Français. Il n'est pas le seul à le dire. On dit ça comme ça. Bon, il y avait évidemment une suprématie française reconnue par tous. Et chez certains, c'est ça qui est intéressant de voir un peu le point de vue d'autres pays, que ce soit les Allemands, les Espagnols, les Italiens, etc. Bah, faut essayer de se mettre un peu dans leur peau, si vous voulez, de voir comment ils étaient. Comment ils percevaient le monde dans lequel ils se trouvaient. Je ne vous vois plus là. Je ne sais pas ce qui se
Moi, je vous
passe.
vois très bien, on vous entend de toute façon.
Alors, bon.
Donc,
Donc, il a eu ce sentiment-là au moment, il faut le préciser évidemment, où les Français dominaient vraiment toute l'Europe. Parce que, je ne sais pas si vous comptez en parler après, mais après la défaite de Waterloo, sa vision des Français sera assez différente, dans le sens que à ce moment-là, il trouvera qu'il ne faut pas exagérer pour rabaisser trop le vaincu. Et donc, il sera beaucoup plus, je voulais, ouvert à une paix à l'amiable avec les Français.
alors, pardonnez-moi, je vous interromps parce que c'est aussi un passage très intéressant de
Oui.
votre biographie sur Clausewitz, Bande de Colson. C'est justement les réflexions de Clausewitz après la défaite de Waterloo. Il trouve que ses collègues, que les officiers prussiens, sont beaucoup trop durs avec les Français.
Oui, c'est ce qu'il trouve. Certains veulent se venger beaucoup plus, comme Gneisenau, par exemple, qui est un grand général et qui voulait faire sauter, par exemple, le pont d'Iéna. Hein. Lui, il trouve qu'il ne faut pas, justement, faire ce genre de choses. Il trouve qu'il faut se réconcilier avec le vaincu et que c'est comme ça qu'on aura la paix. C'est très profond, parce qu'en fait, c'est vrai, il y en a d'autres qui ont parfois pensé ça, mais pas tous. Et ça peut s'appliquer à toutes les époques. Donc, il ne faut jamais, si vous voulez, préparer une nouvelle guerre en instillant une volonté de revanche, chez le vaincu. C'est très profond, hein. Ça montre que. Parce qu'avant ça, il a été effectivement un des plus acharnés à combattre l'hégémonie napoléonienne en Europe, hein, il faut le dire. Hein, il était vraiment, dans certains écrits, on le voit, il était désireux que la puissance napoléonienne soit abattue, hein, il faut le dire clairement. Donc, pour lui, les Français étaient les oppresseurs, ils occupaient son pays. L'occupation en Prusse a été assez dure par rapport à d'autres pays, il faut le savoir aussi. Il y a eu des différences, hein, dans les occupations, à cette époque-là. Il y avait des régions, par exemple, annexées à la France, par exemple le pays qui est le mien, la Belgique, on était annexé à la France. L'opposition a été moins marquée et il y a toujours aujourd'hui, d'ailleurs, certaines sympathies pour Napoléon en Belgique. Hein, donc, malgré qu'il y ait eu aussi des oppositions, mais on était, et ça m'a fait tilt dans une publication récente, la différence qu'il y a entre certaines régions proches de la France et d'autres plus lointaines. C'est la même chose en Italie. Si vous allez à Milan, vous verrez que bah, Napoléon est assez présent et il y a des statues. Il était roi d'Italie, hein, donc il a encore une certaine popularité à Milan. On peut pas dire ça autrement. On le voit dans certains monuments. Bah, sinon, il n'aurait pas sa statue. Au milieu de la pinacothèque de Brera à Milan.
Oui.
Si les Milanais étaient Napoléon, il ne serait pas là. Donc, et ça, c'est parce qu'évidemment, c'est la France qui a aidé les Italiens à créer leur unité. Hein. Mais donc, il y a des régions proches de la France où il y a toujours eu une occupation peut-être moins dure. Et en tout cas, le souvenir de Napoléon est resté plus positif. Mais d'autres régions plus lointaines, et pour prendre encore une fois l'exemple de l'Italie, bah le sud de l'Italie, ça n'a pas été la même chose que le nord. Hein. Donc en Calabre, bah, il y a eu une guérilla contre les troupes françaises, alors que, bon, à Milan, Napoléon était roi. Donc il y a des différences internes dans les pays, et c'est la même chose en Allemagne aussi. La rive gauche du Rhin, qui a été annexée à la France, comme la Belgique, est restée plus favorable à Napoléon globalement que la Prusse, que Berlin, Magdebourg, etc. Donc, c'est un phénomène dont on n'a pas toujours conscience. Moi-même, je n'avais pas tellement conscience, je vous l'avoue, mais je trouve que c'est une explication qui est assez valable, qui se vérifie dans plusieurs pays. Donc, Clausewitz a été, en tant que Prussien, très opposé à Napoléon. Et alors, une fois que la France de Napoléon a été battue après Waterloo, là, c'est vrai, il était beaucoup plus compréhensif que d'autres.
Alors, pour son précision, il rentre en France à peu près un an
Oui.
d'internement avec donc le prince Auguste. Là, il devient chef de cabinet de Charles. Il se marie, enfin. Il a enfin l'autorisation de se marier avec,
Oui, tout à fait.
avec Marie von Brühl. Hein, il a
Parce
été.
qu'il était monté en grade et que donc
Et que c'était.
sa
Oui.
future belle-mère trouvait qu'il était cette fois-ci un parti
Oui.
plus intéressant.
Alors, nous allons faire une petite interruption pour écouter un message de la radio, une petite pause musicale, sonate pour flûte et clavecin de Bach. Vous restez surtout bien en ligne. Et si vous en êtes d'accord, Bruno Colson, je vous propose pour la petite demi-heure qui nous restera, c'est d'évoquer quand même la campagne de Russie.
Oui, tout à
Parce que
fait.
vous évoquez que vraiment il s'est battu, il était logique, cohérent avec lui-même, il s'est vraiment battu contre Napoléon. Et là, il a pris des risques pour sa propre carrière, parce que. Il va rejoindre les Russes contre l'avis du roi de Prusse. Et puis, évoquer bien sûr la campagne de Prusse 1813. Et puis, naturellement, 1815, avec Waterloo, dans lequel il aura un rôle. Et puis, quelques mots sur la fin de sa vie, bien que vous l'ayez abordé, effectivement, à travers son œuvre, Vom Krieg. Cela vous convient-il ainsi?
Parfait, oui,
Eh
tout
bien,
à
c'est
fait.
très bien. Alors, nous faisons cette petite pause.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir donc Bruno Colson à l'occasion de cette passionnante biographie qu'il écrit sur Clausewitz et qu'il publie aux éditions Tempus. Nous en sommes rendus à un moment aussi clé de la vie de Clausewitz, c'est la fameuse campagne de Russie de 1812. Il est, nous l'avons vu, hein, il est chef de cabinet de Scharnhorst. Et il y a donc cette guerre qui se déclare entre la Russie et Napoléon et la Grande Armée, sachant que la Prusse rejoint la coalition de la Grande Armée et va fournir un corps, d'ailleurs, de 20 000 hommes et une certaine logistique à la Grande Armée qui s'attaque donc à l'Empire russe. Et là, le choix de Clausewitz, au point de vue Clausson, bien sûr, va nous en parler. Quelle est sa motivation? Eh bien, c'est tout simplement de démissionner de l'armée prussienne. Alors, je vous donne la parole, parce que ça, c'est un moment très important et qui aura des conséquences hein, aussi pour la campagne.
Oui, tout à fait. Mais donc, la Prusse, si vous voulez, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, se disait, s'est dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'allier avec Napoléon, qui était vraiment le plus puissant en Europe. Et donc, il a accepté de fournir un contingent, comme vous l'avez dit, de 20 000 hommes à la Grande Armée. L'Autriche a fait la même chose. Hein, elle était aussi dans une situation d'infériorité par rapport à la France. Et donc, le roi Frédéric Guillaume a fait ça par raison d'État ou parce qu'il n'avait pas d'autre choix, si vous voulez. En réalité, ses sentiments étaient quand même plus proches de ceux du tsar de Russie que de ceux de Napoléon. Et donc, il a fait ça en se sentant obligé. Clausewitz appartenait donc au groupe des réformateurs et un certain nombre d'officiers prussiens pensaient qu'il ne fallait pas aller jusque-là et que cette fois-ci, il ne fallait pas, disons, faire tout ce que Napoléon disait, mais au contraire, s'allier avec celui qui osait résister à Napoléon, c'est-à-dire le tsar de Russie. Et donc, certains officiers prussiens ont quitté le service pour aller rejoindre l'armée russe. Et donc, Clausewitz a revêtu un uniforme vert foncé d'officier russe. Pardon. Il faut dire que l'armée russe, à cette époque-là, comptait pas mal d'officiers d'origine allemande, souvent, bien sûr, des régions germanophones proches de la Russie, comme la Lettonie, la Courlande, la Lituanie. Vous savez, ce sont des frontières qui ont beaucoup plus fluctué qu'à l'ouest. Hein. Donc, les frontières de l'est de l'Europe, on s'en rend compte aujourd'hui aussi. Hein. Pourquoi y a-t-il cette enclave de Kaliningrad, enfin l'ancien Königsberg, qui est russe? Et bah, y a la guerre avec l'Ukraine, tout ça. Bon. Donc ça veut dire que Clausewitz a changé d'uniforme, mais il ne parlait pas le russe. Donc heureusement, dans les hautes sphères de l'armée russe, c'était la langue française qui était utilisée, et puis il y avait aussi pas mal d'officiers germanophones, mais bon, sa position était quand même un peu particulière, si vous voulez. Certains auteurs ont dit qu'il était un peu comme le général de Gaulle à Londres en 1940, bon, il était un peu seul au milieu d'un pays étranger dont il ne parlait pas tellement la langue. Et donc, il était surtout un observateur en Russie. Il savait évidemment communiquer avec certains généraux, mais pas avec la troupe, ça c'est évident. Alors, il a observé et la campagne de Russie a été pour lui un grand révélateur des limites de la stratégie militaire, car c'est bien ça qu'il a vu. Napoléon avait l'armée la plus puissante, la plus nombreuse, mais le théâtre des opérations ne permettait pas justement à Napoléon de profiter de cette supériorité. Et donc là, il s'est rendu compte, Clausewitz, qu'à la guerre, il pouvait y avoir d'autres facteurs que la supériorité militaire. Et c'est pour cela qu'il a notamment émis l'idée que la défensive est la forme la plus forte de la guerre. Parce que les Russes se sont défendus en reculant dans un espace immense Et pour finir, l'offensive de Napoléon, c'est un peu étiolée. Elle est devenue de plus en plus difficile à mener pour des raisons purement matérielles. Les hommes ne trouvaient pas de quoi se nourrir. La Russie, c'est pas la Bavière, c'est pas la Lombardie. Il n'y a pas autant de moyens de se sustenter, ni de nourrir les chevaux. Donc, tout ça a fait aussi que les lignes de communication, comme on appelle donc les routes qui permettent à une armée de se ravitailler, etc., les lignes de communication sont devenues beaucoup trop longues, les distances énormes, pas beaucoup de villes non plus, pas beaucoup de cultures où on peut trouver de quoi manger. Donc, en plus, il y avait cette politique russe de la terre brûlée. Enfin, on l'a un peu exagéré peut-être, mais c'est vrai que les Russes incendiaient un certain nombre de villages et de récoltes pour que les troupes françaises et alliées ne puissent pas se ravitailler. Donc, Clausewitz s'est rendu compte que la profondeur de l'espace, et c'est ça qui faisait la force de la Russie, a permis à une stratégie purement défensive de finalement l'emporter. Et donc, ça l'a fait réfléchir vraiment à ce qu'était une guerre. Ça dépend beaucoup du lieu où on l'amène. Ça dépend du pays où se déroulent les opérations. Et d'autres en ont fait l'expérience après. Mais la Russie, évidemment, a une profondeur de champ qui est assez inhabituel, assez unique. Et donc l'offensive de Napoléon, c'est vraiment essoufflé. Alors, Napoléon n'a pas vraiment perdu de bataille, hein, c'est ça aussi qui est important. La bataille de la Moscova, Borodino, bah, c'est une victoire française. Donc les Russes ont réussi à tenir en étant battus, si vous voulez, sur les champs de bataille chaque fois. Mais bon, ils avaient le pays pour eux, ils avaient ils étaient.
Pardonnez-moi, parce que Bruno Colson, vous évoquez la Moscova ou Borodino, hein, selon
Oui.
du côté que l'on se place. Vous dites
Oui.
effectivement, les Russes ont perdu la bataille, mais modérément. Et
Oui.
vous évoquez, je ne sais pas si c'est votre réflexion ou si c'est la réflexion de Clausewitz, que Napoléon a refusé d'engager sa garde impériale pour parachever sa victoire. Je crois que Poniatowski, d'ailleurs, l'avait supplié d'engager la garde. Et Napoléon ne l'a pas fait. Est-ce que c'est la raison d'une victoire qui n'est pas une victoire décisive? Est-ce que ça aurait été différent? Alors, évidemment, c'est de l'Uchronie, hein, son histoire militaire, c'est facile.
Oui, bien
Mais
sûr. Oui.
est-ce que c'est une remarque de Clausewitz, justement, qui
Oui.
reprocherait à Napoléon de ne pas avoir engagé sa garde impériale pour parachever la victoire de la
Oui.
Moscova?
Mais c'est vrai qu'on a reproché ça à Napoléon, mais on dit aussi que c'est le maréchal Bessières qui a soufflé à l'oreille de Napoléon. Si vous n'avez pas engagé la garde à je ne sais combien de lieues de la France, ouais. Enfin, une distance énorme, évidemment. C'était la dernière force organisée qui n'avait pas donné dans la bataille. On ne peut pas dire que ça a été une erreur véritable, parce que durant la retraite de Moscou, ce sont les unités de la garde qui vont quand même maintenir une armée en état, si vous voulez, plus ou moins, enfin, comme ils pouvaient. Mais ils sont restés organisés jusqu'au bout. Et en subissant aussi, malgré tout, des pertes importantes, mais s'ils avaient été engagés à Moscova, ils auraient quand même été beaucoup moins organisés pour la retraite. Donc, on ne sait pas dire.
C'est très
C'est.
difficile de
Ouais,
trancher.
ouais.
Et puisque vous parlez de la retraite, j'aimerais lire quelques lignes que vous consacrez en citant Clausewitz, justement, à la Bérézina. Ce sont des lignes
Ouais.
très, très intéressantes parce que le regard de Clausewitz sur, justement, ces batailles est original. Wittgenstein fait 10 000 prisonniers. Alors, Wittgenstein, c'est un général russe, hein, fait 10 000 prisonniers, mais Napoléon, en dépit de pertes considérables, réussit à traverser la Bérézina avec le gros de ses troupes. Jamais il n'a été plus facile que dans cet endroit d'amener une armée à capituler en rase campagne, écrit Clausewitz. Le hasard a sans doute favorisé l'empereur des Français, Mais le facteur déterminant fut la réputation de ses armes. Les généraux russes le craignaient. La vigueur de son intelligence et la vertu guerrière de son armée le sortirent d'une des pires situations où un général se soit jamais trouvé. Ça vous citez Clausewitz. L'amiral Tchigagov servit de bouc émissaire, mais Kutuzov et Wittgenstein se montrèrent aussi timorés que lui. Le journal des opérations du premier corps fait état de la prise de 2 drapeaux, de 4 canons et de 13 000 prisonniers pour 4 000 Russes hors de combat. La nuit du 28 au 29 novembre, le 9e corps de Victor passe à Bérézina. Les ponts, mal assurés et ébranlés par les chariots, se rompent avant la fin du passage. Des Français se noient, des canons, des caissons de munitions et tous les bagages sont abandonnés sur la rive gauche. Les troupes de Wittgenstein s'en emparent le lendemain matin et font prisonnier beaucoup d'employés de l'administration et tous les soldats du train. Si les Russes perdent entre 10 000 et 15 000 des leurs, la Grande Armée cesse pratiquement d'exister comme force de combat organisée. Entre 20 et 25 000 hommes ont été mis hors de combat, dont des milliers de prisonniers. J'aimerais aussi lire quelques lignes sur l'analyse de Clausewitz sur la stratégie de Napoléon, telle que vous l'écrivez dans ce livre, hein, Clausewitz aux éditions Tempus. Vous écrivez la stratégie, alors c'est selon, mais sur Clausewitz, hein, la stratégie de Napoléon a échoué car elle n'était pas adaptée à l'immensité de l'espace russe, c'est ce que vous venez en effet de préciser. Mais alors, plus surprenant, et j'aimerais si vous pouviez le commenter, Napoléon ne s'est pas assez occupé avec soin de ses soldats.
Oui.
Sa seconde grande négligence, c'était l'impréparation de la retraite. Et là, en l'occurrence, Clausewitz avait vu juste. Oui. Et il était sans doute impossible de vaincre les Russes. Clausewitz prend alors conscience, écrivez-vous, de la primauté du politique sur la guerre proprement dite.
Oui.
Napoléon ne s'est pas occupé avec assez de soin de ses soldats. Pourquoi Clausewitz écrit-il ça?
Alors, d'abord, il faut dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Napoléon a beaucoup préparé la campagne de Russie.
Oui.
Donc, il se rendait bien compte que c'était un pays très particulier et qu'il fallait tenir compte de l'immensité des distances, etc. Mais ça n'a pas encore été suffisant. C'est-à-dire que, malgré tous ses efforts, c'est un pays qui n'avait pas les ressources pour permettre à la Grande Armée d'aller très loin et de vaincre les Russes. Mais ce n'est pas faux de dire que Napoléon, en un certain sens, c'est un personnage ambivalent. Il est à la fois très humain, et c'est ce qui fait d'ailleurs son attrait et ce qui fait aussi l'importance de ce qu'il a dit. Il reste très humain. Il a pleuré quand, sur son bataille des loups, par exemple, quand il a vu le nombre de pertes que son armée avait encourues. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il avait des emportements, parfois, ou des décisions qu'il prenait, où il ne tenait pas suffisamment compte de ce que ça impliquait comme sacrifice de la part de ses hommes. Ça, c'est vrai. Alors, ce que Clausewitz écrit, c'est parce qu'il a été terriblement frappé par les conséquences de cette retraite de Russie. Il a d'ailleurs là des paroles presque, on pourrait dire presque pacifistes, tellement il est horrifié de voir à quel point l'être humain peut souffrir dans une situation de guerre. C'est vrai qu'il y a eu certainement des scènes atroces durant la retraite de Russie. Ça l'a frappé. Donc, il n'attribue pas tout évidemment à Napoléon. Hein, ce n'est pas lui le responsable de tout. Mais malgré tout, il a cru que c'était possible. Et là, il s'est trompé. C'est ce que Clausewitz souligne. Donc, il veut dire en fait que les meilleurs stratèges ne peuvent pas nécessairement toujours l'emporter. Et donc, je crois que c'est le grand enseignement qu'il a tiré de la campagne de Russie. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs soldats du monde, d'être le général le plus compétent, le plus actif, pour triompher nécessairement. Et donc, Au fond, les Russes ont laissé faire. Hein. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé leur pays envahir par les Français et leurs alliés, par Napoléon. Et puis, quand ça a été suffisamment, l'adversaire a été suffisamment affaibli, ils se sont avancés. Hein. Tout le monde ne sait pas faire ça, évidemment. On n'a pas tous une profondeur de territoire aussi grande. Mais ce qui a frappé Clausewitz, c'est que, au fond, la stratégie militaire avait des limites. Et pour lui, qui a quand même consacré sa vie à une armée et à la réflexion sur la stratégie, c'est important parce que on voit qu'il a conscience, c'est vrai, de la supériorité de la politique sur la stratégie militaire, parce que justement, la stratégie militaire ne peut pas tout faire. Elle a des limites. Et Napoléon a trouvé ses limites en Russie.
Je vous propose, il nous reste 10 petites minutes à passer à votre compagnie, Bruno Colson. Si vous en êtes d'accord, je vous propose d'évoquer deux sujets principaux où Clausewitz a eu un rôle aussi important. C'est la convention de Tauroggen, et
Oui,
puis donc qui va clore hein, cette campagne
c'est
de
ça,
Russie, et puis la campagne de Belgique hein, avec Ligny, Wavre et Waterloo, dans lequel Clausewitz aussi a eu un rôle important, et peut-être quelques mots pour conclure aussi sur la fin de sa vie. Voilà. Il reste 9 minutes, ce n'est pas beaucoup pour traiter de sujets effectivement importants.
Ben oui, donc la convention de Tauroggen, c'est quand il a convaincu le général York von Wartenburg. Enfin, il n'était pas encore von Wartenburg à l'époque.
Qui
Général
commandait
York,
donc le corps prussien
voilà, il commandait
pendant
le
cette
corps
campagne de Russie.
auxiliaire prussien, donc aux côtés de la grande armée de Napoléon. Et Clausewitz l'a convaincu de changer de camp, finalement. Enfin, d'abord de devenir neutre, évidemment. On ne change pas de camp tout de suite. Mais en tout cas, de cesser d'appuyer les Français. Et là, il a joué effectivement un rôle très important parce que, bon, il a réussi à ce que la Prusse, progressivement, devienne l'allié de la Russie contre Napoléon. Et l'armée prussienne, si vous voulez, a été convaincue de cela par l'intermédiaire de ses généraux avant le roi de Prusse. Parce que le roi de Prusse, il n'était pas d'accord au départ, il trouvait que c'était imprudent, c'est tout à fait. En fait, ce qu'il craignait, c'est que Napoléon prenne évidemment des mesures de représailles contre la Prusse. Voire même lui ôte sa couronne, supprime le royaume de Prusse. Hein. C'était possible. Hein. Donc, le roi de Prusse a. Il y a une espèce d'entourloupe à ce moment-là, parce qu'il y a aussi l'apparition d'une Landwehr hein, en Prusse orientale. Donc, vous savez, une Landwehr, une milice populaire, enfin des régiments de civils en armes. Et donc, ça a été adopté par les États. De Prusse orientale, donc les États régionaux, si vous voulez, le Conseil régional de la Prusse orientale, alors que le roi de Prusse n'était pas favorable à ça. Et puis il a quand même suivi, il n'a pas osé aller contre, mais il en a toujours voulu un peu à Clausewitz d'avoir été celui qui avait convaincu York de passer de l'autre côté, finalement. Si bien que Clausewitz est resté dans l'armée russe jusqu'en 1814, donc il n'a pas retrouvé sa place dans l'armée prussienne, n'a pas retrouvé un uniforme prussien avant la campagne de 1815. Là, il le retrouvera. Donc il va servir, va trouver des astuces, hein. Il va être l'officier de liaison russe auprès de Scharnhorst, donc à l'état-major prussien, mais il va retrouver son uniforme prussien pour la campagne de 1815. Et là, justement, le roi sera d'accord parce que, bon, il estime qu'il y a eu suffisamment de punitions pour Clausewitz, mais en même temps, il appréciait le personnage, je crois. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours assez souligné. Frédéric Guillaume III était un personnage intelligent, hein. C'était pas un roi. C'était pas un roi d'opérette, quoi. Il était réellement intéressé par ce qu'il faisait. Et donc, en 1815, Clausewitz devient un chef d'état-major, comme ça j'arrive à la conclusion que vous souhaitiez là. Il devient un chef d'état-major d'un des quatre corps d'armée prussien. Donc ce n'est pas rien, hein, parce qu'un chef d'état-major dans l'armée prussienne, à cette époque-là, c'est quelqu'un qui, d'après les réformes de Scharnhorst, donne des conseils très précis au général qui commande le corps d'armée. Donc ce n'est pas un simple secrétaire, ce n'est pas quelqu'un qui note tout ce que le général décide et qui envoie simplement sa correspondance. C'est quelqu'un qui est au courant de la situation, qui donne des conseils pour agir. Et il y a justement au cours de cette campagne de 1815 un moment qui est très important, je crois. C'est quand le général von Grolman, qui était un des grands généraux des réformateurs prussiens, hein, donc c'est le numéro 2 de l'état-major de Blücher, hein, après Gneisenau, c'est à Clausewitz qu'il va demander de tenir bon contre les forces de Grouchy à Wavre, parce que l'armée prussienne va faire mouvement vers Mont-Saint-Jean pour appuyer l'armée des Pays-Bas de Wellington.
Donc en fait, pardonnez-moi, Bruno
Oui.
Colson, parce que la mission de Clausewitz en tant que donc chef d'état-major de ce corps prussien à
Oui.
Wavre, c'est de fixer
C'est
Blücher,
de fixer,
pour empêcher
exactement.
Blücher de rejoindre Waterloo. C'est ça.
Empêcher Grouchy.
Oui, pardon.
Empêcher
Bloquer Grouchy, excusez-moi, il faut l'empêcher de rejoindre Waterloo pendant que lui,
c'est
justement,
ça.
Blücher, lui,
Ouais.
fait mouvement vers
Oui.
Waterloo pour se grouper
Donc,
avec Wellington.
Blücher prend trois de ses corps d'armée, il en avait quatre. Il
Oui.
en laisse un seulement à Wavre, le troisième, avec Clausewitz comme chef d'état-major. Donc, le troisième corps d'armée prussien, dont Clausewitz est chef d'état-major, va affronter à Wavre deux corps d'armée français, hein, plus de la cavalerie. Donc, des troupes supérieures en nombre aux siennes. Et ça n'a pas été si souvent dit que ça. La victoire des Alliés à Waterloo, elle est quand même due au fait que le troisième corps prussien a pu fixer Grouchy. Bon, est-ce que Grouchy aurait pu rejoindre l'armée du Nord de Napoléon? Ça, c'est un autre
Il y a
problème.
combien de kilomètres entre Wavre et Waterloo?
Oh, je
Une
dirais
vingtaine?
une vingtaine, oui.
Oui.
C'est pas tellement loin, mais
Mais suffisamment pour empêcher Grouchy d'arriver à temps, quoi.
je crois que, enfin, beaucoup de spécialistes disent que malgré tout, Grouchy n'aurait pas pu arriver pour appuyer la droite de Napoléon au moment voulu. Donc, bon, ça reste.
Pour bloquer Blücher, justement, c'est ça. C'est la droite,
Oui,
c'est
c'est
parce que
ça.
Blücher
Oui,
arrivait sur la droite, et c'est là où Grouchy manquait.
exactement. Oui.
Est-ce que Clausewitz, justement, comme chef d'état-major de ce corps d'armée qui est face à deux corps d'armée français commandés par Grouchy
Oui.
à Wavre, à 20 km donc de Waterloo, est-ce que il fait preuve d'un talent militaire particulier, justement, pour remplir sa mission? Est-ce qu'il est exemplaire en la matière ou
Oui, c'est-à-dire que il faut quand même dire qu'on ne connaît pas tout
Oui.
parce que tout simplement les archives de l'armée prussienne ont disparu. Hein. Donc on en a
Elles ont
quelques-unes.
brûlé à Berlin, non? En
Elles ont brûlé
45?
en 1945
C'est
dans le
ça,
bombardement de Potsdam, ou bien, parce
oui.
que beaucoup pensent ça aussi, ou bien les Soviétiques
Oui.
les ont
Elles sont
emportées.
en, oui, elles sont en Russie.
Donc là, il y a
Oui.
encore une sorte d'incertitude et c'est pas
Oh.
évident. Donc, libre actuel qu'on va aller demander à
Oui.
consulter l'archive prussienne à Moscou. Donc, on n'a pas grand-chose comme document d'archives. Vous savez que les historiens travaillent sur les archives. On en a pour les autres armées, surtout l'armée française. Il y a quand même pas mal d'archives à Vincennes. L'armée autrichienne est bien documentée aussi. Les Russes, il y a quand même beaucoup de choses, même si c'est assez désordonné. Mais pour l'armée prussienne, proprement dite, on n'a pas grand-chose. Alors, on a quand même suffisamment de matériaux pour dire que Clausewitz a été très actif durant la bataille de Wavre, ça oui. Donc, il y a quand même des journaux de certaines brigades qui ont été conservés. Et là, on voit qu'il a joué un rôle en allant vraiment au plus près du combat et en vraiment en pesant sur les décisions du commandant en chef du 3e corps prussien, qui s'appelait Thielmann, et qui était en fait pas aussi intellectuel que Clausewitz, pour dire les choses franchement. C'était plutôt un sabreur. Bon. Tandis que Clausewitz, Thielmann l'appréciait parce que justement c'était un type intelligent. Donc il a réellement pesé. Alors Il faut savoir que à Wavre, avant qu'on connaisse le résultat de Waterloo, bah, les Prussiens n'en menaient pas large. Hein, donc, ils ont dû reculer. Hein, et ils ont dû reculer face à Grouchy, qui était plus puissant qu'eux. Et donc, ils ont battu en retraite jusque Louvain, en fait, les Prussiens. Louvain, c'est quand même certaines distances. Bon, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Louvain, ils ont pris la direction, mais quand ils ont été évidemment au courant de la défaite de Napoléon à Waterloo, bah, Grouchy a reculé. Il a d'ailleurs très bien organisé sa retraite, puisqu'il a ramené ses troupes, hein, donc ce n'est pas
Bruno Colson, malheureusement, nous devons arrêter cette émission. Nous arrivons au terme de
rien.
notre émission. Je rappelle aux éditeurs de Radio Courtoisie votre livre passionnant sur la vie et l'œuvre de Clausewitz, Clausewitz aux éditions Tempus. Merci beaucoup d'être venu en direct ce soir. Merci à Stéphane qui a réalisé cette émission. Merci à Laurent Standard. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 12 juillet 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.